passe à l'ouest.
À la maison Saint-Gervais, Frankenstein, le monstre devient mutique. Une réadaptation du roman de Mary Shelley écrit en 1818. C'est toujours en bonne voie, c'est toujours dans l'air du temps. Le roman possède encore une aura intacte, puisqu'on voit encore et encore ce roman revenir. Et cette fois sur les planches de la maison Saint-Gervais. Créé par les fondateurs, Frankenstein montre un héros qui ne parle pas, où les dialogues laissent place à la musique. Julien Bassler était à la mise en scène. Bonjour.
Bonjour.
Et Zoé Kadoch à la scénographie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes les deux, vous avez les deux travaillé ensemble sur cette pièce, et de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que les morts Frankenstein n'a jamais vraiment perdu de vitesse autant. Enfin, on voit beaucoup de films, de séries, de spectacles, alors que le roman a plus de 200 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'intemporalité de cette œuvre?
C'est un mythe, hein. Mary Shelley a écrit un des romans fondateurs des histoires de science-fiction, on peut dire, qui ensuite ont fait des petits, en citant même Alien, évidemment les reprises comme Édouard Main d'Argent ou ce genre de films-là, et pas seulement dans les films, mais aussi dans la littérature de science-fiction et d'épouvante. Donc, au-delà de son roman à elle, c'est devenu vraiment une figure mythique, quoi.
C'est vraiment ce côté d'avoir plus ou moins instauré un genre qui rend ce roman si prisé.
Bon, c'est aussi une histoire qui est fascinante. Un créateur qui rejette sa créature, c'est... Forcément, c'est attirant.
Des thématiques qui peuvent être reprises, en fait, autant de manière assez littérale, autant ça peut se changer, se transformer selon l'œuvre, selon les besoins de telle ou telle œuvre.
Oui, s'adapter. Il y a la figure de la créature, hein, évidemment, du créateur, qui est comme une figure aussi paternelle. Et aussi, Dr. Frankenstein, c'est la figure du savant fou. Donc on peut retrouver par exemple dans Retour vers le futur, en version plutôt comique ou ce genre de choses. Le savant fou, ça a vraiment traversé maintenant les âges dans la littérature de genre et dans le cinéma.
Alors, un des éléments principaux de cette pièce est que le héros, la créature est mutique. Alors, pour reprendre vos termes, c'est une réinvention du monstre en héros mutique. Sans vraiment être un expert de Mary Shelley, mais dans l'histoire, le monstre est présenté comme une victime qui se cherche et le docteur un petit peu comme une victime de son hubris. Est-ce qu'on peut utiliser encore le terme de héros au sens un petit peu traditionnel dans une telle œuvre ?
Les deux sont des anti-héros, on va dire, plutôt, ouais, qui sont plutôt en souffrance. Bon, Mary Shelley, c'était vraiment à l'époque un roman romantique, donc qui parle beaucoup de la souffrance de ses personnages, ça se ressent encore, je pense, un peu dans notre spectacle.
En tout cas, le docteur cherche l'immortalité, donc oui, c'est une forme de d'héroïsme quand même, en tout cas de recherche d'héroïsme.
Oui, ça passe de l'enthousiasme, de la recherche scientifique à la désillusion.
Quelque chose qui était très pertinent, tout ce qui était cet excès de vitesse, on peut dire, de la recherche scientifique au 19e siècle, c'est un thème qui vous semble aussi encore plus approprié aujourd'hui ?
Bah oui, hein.
Bon, oui, évidemment, on va pas... Disons que ce à quoi on pense, tout le monde y pense, c'est sûr.
Effectivement. Alors justement, pour un héros mutique, on voit énormément d'utilisation de la musique dans cette pièce. Alors moi, ça m'a fait penser justement à ces vieux cartoons où la musique était la narratrice principale au final de l'action. C'est quelque chose que vous aviez en tête?
Oui,
en
ça fait longtemps qu'on avait envie de travailler, disons, plus étroitement avec la musique. Au début de notre travail, il n'y avait pas du tout de musique, pas de lumière. Et puis là, petit à petit, on a accueilli la musique et la lumière dans nos spectacles. Et là, on avait envie de faire un pas encore plus loin et d'avoir une collaboration étroite avec Laurent Nicolas, qui a enregistré des musiciens spécialement pour le spectacle. Et ensuite, cette musique a été très étroitement aussi travaillé avec les acteurs sur le plateau, donc c'est vraiment un puzzle qui s'est construit ensemble, quoi.
Donc cette pièce est un petit peu sa propre bande originale.
Oui, complètement. Ça a été écrit avec la musique et voilà, ensemble avec les comédiens. Puis la musique, elle vraiment, elle remplace les paroles, en fait, quelque part, les émotions des personnages.
Julien, justement, tu parles de cette musique qui a été écrite avec, avec l'action, mais le scénario a été écrit d'abord et ensuite ça a été composé, enfin, Laurent Nicolas a composé la musique à travers ça. Vous aviez des exigences particulières par rapport à la musique ?
Alors, la particularité de notre démarche là sur ce coup-ci, c'est qu'on a écrit le scénario avec Laurent Nicolas, donc Zoé, Laurent et moi, et on a écrit un canevas déjà, et que lui il a participé vraiment à l'écriture de ce canevas dès le départ, et que lui il était dès le départ. Donc en fait, c'est pas tant qu'on a des exigences envers lui, c'est que ça s'est fait ensemble en fait.
Alors, les fondateurs, vous n'êtes pas à votre premier essai en adaptation de littérature. On peut parler de Madame Bovary, Don Quichotte, Tartuffe ou Don Juan. Désolé pour l'accent. Mais justement, quand on adapte de la littérature au théâtre, est-ce qu'il y a des défis particuliers quand on a envie de le rendre muet ?
Oh bah oui. Oui, d'abord, il faut simplifier pas mal la trame de départ. Nous, on s'est aussi autant basé sur les films de James Whale, par exemple, de 1930, etc., que sur le livre. On a pris des choses un peu partout, parce que les films sont très différents du livre, déjà. Donc, on doit, si on est en muet, on doit faire en sorte que ça soit immédiatement compréhensible. Palpable par le public, donc c'est un gros travail d'adaptation,
Dans une interview que vous avez pu donner à la RTS, vous nous dites que le spectacle s'autonomise et nous échappe, au même titre que la créature échappe à son créateur. Est-ce que c'est un petit peu le cas pour tous les spectacles, au final, où au final le public et les acteurs, les actrices s'approprient ce que les créaturistes ont fait?
Oui, bien sûr. Ça se passe en ce moment même. Enfin, ça a commencé... Je sais pas, je dirais le soir de la première, on est encore comme un groupe. Ensuite, le spectacle vit sa vie, c'est sûr.
Zoé était justement la scénographe de cette pièce, et on voit aussi que la scénographie, elle est construite petit à petit par les acteurs et les actrices. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, et aussi au final, est-ce que c'est une manière justement de voir votre création vous échapper?
Ça fait longtemps qu'on travaille, qu'on crée des pièces qui intègrent la scénographie dans la dramaturgie du spectacle. Et là, c'est la première fois que deux actrices sont responsables, on va dire, des modifications du spectacle, de la scénographie, de l'image. Est-ce que c'est... Ce qui est important, c'est que ça se passe sous nos yeux. Après, est-ce que c'est pour que ça nous échappe? Non, je pense pas, mais c'est...
C'est une façon de construire le monde, l'univers qui entoure les personnages principaux au fur et à mesure du spectacle, et de le construire et de le déconstruire. Donc, de former un peu des images mentales pour le spectateur, suggestives, quoi.
Oui, tout à fait. On avait besoin d'un matériau unique, simple, qui soit à la fois doux et à la fois géométrique, comme les différents différentes émotions qu'on peut vivre pendant le spectacle. Donc c'est un vecteur d'émotions autant que la musique, quoi. Ouais. Mm-hmm.
Donc on peut dire qu'on s'en rapproche, mais on n'est pas non plus complètement sur une part d'improvisation de la part des personnes sur scène dans cette pièce.
Non, mais par contre on crée on crée les scènes avec les acteurs en répétition, donc on fait beaucoup d'improvisation pendant le travail, mais ensuite ce spectacle-là, non, est pas du tout improvisé. Il y a des bouts qui sont quand même assez... Il y a des bouts libres, mais il est quand même très calé.
Ouais, comme il y a de la musique, c'est pas mal calé sur la musique aussi.
Ça fait un petit peu c'est un petit peu paradoxal, la musique qui dirige les humains et pas l'inverse. Le monstre a le visage bandé aussi sur scène. Est-ce que là aussi vous vouliez laisser une espèce de part où la pièce vous... Alors le terme échappé est un petit peu fort, mais vous vouliez laisser peut-être un petit peu le public imaginer à quoi ressemblait le monstre sous ses bandages?
Alors il a le visage bandé un petit moment. Puis ensuite on découvre le vrai visage de la créature. Et les gens venir découvrir le vrai visage de la créature, mais il n'a pas le visage bandé tout le temps, non.
Donc peut-être au début il a le visage bandé et ensuite ça se découvre. Vous attendez une réaction particulière de la part du public un petit peu? Est-ce que c'est le grand retournement de situation d'avoir ces bandages qui tombent?
Sans en dévoiler trop, mais l'idée effectivement c'est de se poser la question: qu'est-ce qu'un monstre? Et moi personnellement en tant que metteur en scène, ça m'intéressait vraiment de représenter une créature, parce qu'au départ c'est pas un monstre, une créature innocente, comme un nouveau-né, puis cette créature devient petit à petit un monstre, c'est ça dans le livre de Marie Shelley. Donc c'est ça qui nous intéressait quand même au niveau du scénario, de comment on construit un monstre scéniquement en fait. Donc c'est ça qu'on va découvrir normalement dans le spectacle.
Le roman de Marie Shelley a plus de 200 ans. Pour vous, c'est... Alors, en Suisse, on aime beaucoup dire que justement c'est un livre qui a été écrit à Colonie. Pour vous, c'est une dimension justement que vous avez pris un petit peu en compte aussi, la relation entre la Suisse ou entre Genève et ce roman?
Pas
vraiment, non.
Non, franchement, pour être tout à fait franc, il y a une anecdote qui est pas mal, c'est que cette année-là, il y avait une éruption d'un volcan en Indonésie qui avait recouvert le ciel d'Europe d'une espèce de brouillard qui avait assombri le ciel d'Europe, et puis c'était un été sans été. Et ils étaient tous là, Lord Byron, elle, son mari, etc., dans cette villa Diodati à Colonie, puis ils s'ennuyaient, et parce qu'ils... Vraiment, il faisait pas beau, etc. Puis c'est ça qui a un peu créé un concours de « tiens, on va écrire des histoires un peu d'épouvante ». Et c'est ça qui a fait accoucher de Frankenstein. Donc on peut dire que Frankenstein est aussi né de cette espèce de monstre qui a explosé, qui a érupté à l'autre bout de la planète.
Alors effectivement, les étés sans été, je crois qu'on arrive plus ou moins à les visualiser, puisque ça fait depuis 2020 qu'il pleut à chaque année entre
oui,
entre
en fait, c'est plus quand on lit le livre, on a des images directes, vu qu'on vit là, est là. Donc, c'est des univers qui, évidemment, qui nous parlent, mais après, c'est, on va pas dire que c'est pour ça qu'on est intéressé à cette histoire.
Alors, il y avait, il me semble, une rumeur aussi qui disait que Marie Shelley voyait un petit peu le monstre de Frankenstein se déplacer dans cette nuit, dans cet été sans été. C'est un petit peu ça qui lui a donné l'inspiration aussi, cette nuit très très sombre.
Ah oui, c'est vrai?
Il me semble, il y a pas... une petite rumeur. Alors après, peut-être que je me rappelle mal des cours du collège.
Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'elle avait, fait un rêve. Qui l'avait inspiré, fait un rêve.
Et pour revenir toujours au roman, pour vous, Julien et Zoé, c'est une œuvre un petit peu de cœur, ou bien vous avez vraiment ramassé, c'est un grand terme,
par cœur,
pris ce roman en vue de composer cette pièce?
On a choisi.
Ouais, je pense que c'est plus le mythe que le roman, mais moi, je l'avais pas lu avant et j'étais très touchée par ce livre. Donc forcément il doit y avoir les deux, mais en fait le premier départ c'était plus l'histoire en fait.
Est-ce oui, les deux personnages, du créateur et de la créature, on en parlait. Moi j'avais lu le livre il y a longtemps, on avait vu les films, et disons que c'est quand on cherche aussi un petit peu des sujets, des thématiques sur lesquelles travailler, d'un coup cette histoire de spectacle aussi un petit peu plus sombre que ce qu'on fait d'habitude nous plaisait bien.
Un petit peu, changer un petit peu de style, c'est tout à votre honneur. Julien Bassler et Zoé Kadoch, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes respectivement à la mise en scène et à la scénographie pour Frankenstein, le monstre devient mutique, qui commence dès ce soir à la Maison Saint-Gervais. Julien ?
Il faut qu'on cite l'équipe.
Oui.
Donc, c'est avec les actrices Mélanie Foulon, Aline Papin, Vincent Fontana, François Herpeux et une lumière de Mathieu Baumann.
Merci beaucoup Julien et Zoé, on se retrouve très bientôt au Théâtre Saint-Gervais.
Radio Vostok, let's rock.